J'ai aimé la présentation de Edouard. C'est rare quand on fait des compliments, mais bon, c'est voilà. Parce que on a l'habitude de se plaindre que le Seigneur ne répond pas toujours à nos prières. Et à travers ce psaume où David se tourne vers Dieu et il dit, écoute ma prière, quoi. Je suis ton enfant, j'ai des droits, puisque tu es mon père. Tu es celui qui peut et qui doit m'écouter. Sinon, à quoi ça sert que je sois ton enfant? Quand on a chanté, la plupart des chants, c'est toujours Seigneur, mais tu n'entends pas ce que je dis, ou bien tu ne veux pas entendre ce que je dis. On dirait que tu es loin, que tu es sourd à mes requêtes. Eh bien, bon, ça c'était pas prévu dans ce que je devais dire, parce que, vous savez, j'ai un petit cerveau, même s'il est lent, il réfléchit quand même, et je ne suis pas différent des autres, parce que souvent, je me plains devant le Seigneur, hein, je répands mon âme, c'est plus beau de dire « je répands mon âme » que de dire « je me plains hein. », mais c'est une question de vocabulaire. Toujours. Alors, j'ai vu sur. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une petite blague. Et vous savez que j'aime bien de raconter des petites histoires. Et c'est un bonhomme qui téléphone à son copain et lui dit que fais-tu? Et alors, le copain lui dit. Je suis en train de traiter aquathermiquement des céramiques, du verre, de l'aluminium, de l'acier, sous un environnement contraint. Alors, je répète parce que c'est assez compliqué, hein. Donc, il dit qu'il travaillait. Donc, je travaille sur le traitement aquathermique des céramiques, du verre, de l'aluminium et de l'acier, sous un environnement contraint. Alors, c'est du français, hein? Alors, je ne sais pas qui a compris ce que je viens de dire. Ben, je suis content, parce que moi, je ne l'ai pas compris non plus la première fois que je l'ai lu. En fait, il a été très impressionné, l'ami là, qui avait téléphoné, et il lui dit, mais peux-tu m'expliquer avec précision ce que tu es en train de me dire? Oui, mais je vais te dire. Je suis en train de faire de la vaisselle avec de l'eau chaude et je suis sous la surveillance de ma femme. Hein? Donc c'était ça le traitement aquathermique. Hein? Alors bien souvent, on est aussi sous des contraintes de vocabulaire. Et je crois que bien souvent, quand on prie, quand on s'adresse à Dieu, on a un vocabulaire qui semble un peu étrange. On voudrait être précis et on est très vague. Je crois que quand on s'adresse à Dieu, on doit le faire d'une façon, je vais dire, à cœur ouvert. Lui dire, Seigneur, écoute, je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas commencer à dire, mais pourquoi ceci, pourquoi ça? Plutôt dire, qu'est-ce que tu veux m'aider à comprendre à travers toutes les expériences par lesquelles tu me permets de passer? Et je voulais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 8. J'avais pensé lire tout le chapitre, mais c'est long, il y a 59 versets. Quoique on a un peu de temps, mais c'est pas. Ce n'est rien, je vais le reprendre le passage un après l'autre, mais surtout le verset 43. Et le verset 43, donc du chapitre 8 de l'évangile de Jean, dit: Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc Jésus s'adresse aux pharisiens. Donc les pharisiens, ce sont des gens qui étaient instruits. Il s'arrange avec les sadducéens, les pharisiens, les publicains, avec tous ceux qui étaient des gens instruits, et il leur dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Alors, la parole de Dieu, c'est quelque chose, bon, c'est le livre que nous avons, hein, que je néglige, que nous négligeons souvent. On essaye d'être le plus souvent avec Dieu, mais on est loin d'entendre et de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Le Seigneur veut nous aider chaque instant de notre vie. Même pendant notre sommeil, Dieu est là, il veille sur nous. Parce que il y a un psaume de David qui a réalisé que Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, mais moi souvent quand je vois Israël dans les psaumes, je mets Salvator. Donc, Dieu ne sommeille ni ne dort parce qu'il me garde. Et tous les matins, dès que j'ouvre les yeux, j'ai un moment de recueillement où je dis, Seigneur, merci parce que tu as été mon gardien. Même si j'ai fait des cauchemars, même si j'ai fait des beaux rêves, même si j'ai rêvé de choses et d'autres, dont je ne me rappelle plus parce que c'est l'être humain comme ça, il se rappelle rarement de ses rêves, mais Dieu m'a gardé, il m'a gardé en bonne santé et il m'a permis et il me permet de vivre au jour le jour avec lui. Alors, Jésus est à Jérusalem et il est en train de parler avec tous ces pharisiens. Alors, ceux qui n'ont jamais vu à Jérusalem, par exemple, quand on est au mur des Lamentations, vous avez le mur et puis il y a l'esplanade devant et il y a plein de chaises. Par moments, il y a des tables qui sont là et vous avez des rabbins qui sont en train de donner vraiment de tout leur cœur des explications sur la parole de Dieu. Et les autres sont là et ils écoutent. Et alors vous avez souvent, il y a plus de tables, et ça ne dénote pas. Et vous entendez des « Amen, Amen !» parce qu'ils viennent de comprendre ce que la parole de Dieu disait. Et c'est important, parce qu'un mot peut en cacher un autre, et ainsi être révélé. Et Jésus, il parle un peu, dans ce chapitre 8, il parle un peu en parabole, mais ce n'est pas des paraboles, des histoires. Il donne un texte et il essaye de montrer ce qu'il est en train de dire. Par exemple, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens ne ratent pas l'occasion, ils n'ont rien compris de ce que Jésus voulait dire. Jésus dit « Je suis la lumière du monde » parce que quand il est entré dans le monde, c'est la lumière qui est venue à travers au milieu des hommes. Et il y a au début de l'évangile de Jean, il a habité parmi nous. Et en fait, il a habité parmi nous. Le texte dit clairement, il a dressé sa tente parmi nous pour qu'il vive comme nous. Pas seulement parmi nous, vous savez, comme un anonyme. Il a voulu être le même, le semblable que nous. Et les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus leur répond, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu, mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Les mages qui sont venus d'Orient quand Jésus est né, ils ont compris et ils ont su qui ils venaient adorer. Et les pharisiens qui étaient auprès de Hérode quand ça s'est passé, quand les mages sont venus à Jérusalem, ils avaient des traditions qu'ils se disaient pour connaître toute l'histoire, il fallait que ça se répercute de génération en génération. Donc les pharisiens qui étaient en train de parler à Jésus savaient qui il était, comment il était venu au monde. Mais ils ne voulaient pas que quelqu'un puisse être une lumière à leur place. Vous savez, c'est souvent, hein, vous savez, les vedettes, quand elles sont sur scène, elles remplacent toutes les autres vedettes, hein, parce qu'il n'y a que eux qu'on voit. Les projecteurs sont fixés sur eux. Est-ce que nous, avec notre science, notre connaissance, même de la parole de Dieu, est-ce que bien souvent nous disons, ah, est-ce que je suis du bon côté de la caméra, hein? Est-ce que les gens peuvent me voir tel que je suis ou tel que je veux me montrer? Ne soyons pas comme les pharisiens. Alors, j'ai fait des recherches. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas les pharisiens. Il n'y a pas de pharisiens. Parce que la secte des pharisiens a été créée entre le livre de Malachie et l'évangile de Matthieu. Donc il y a toute une période, 400 ans, où il y a eu la conquête d'Alexandre le Grand, il y a eu la bataille avec les Maccabées, et là, après la bataille des Maccabées, il y a des gens religieux qui ont voulu créer une secte où eux étaient les détenteurs de la vérité. Un petit peu comme les Esséniens à Qumran, qui, eux, avaient une lutte entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. Et si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem, il y a dans le musée du livre, il y a la coupole du musée du livre qui est toute blanche, et à côté, on a construit un mur noir. Parce que la révélation des documents de Qumran a montré qu'il y avait une lutte entre les ténèbres et la lumière. Et bon, on n'est pas à Noël, mais vous savez que Jésus, on fête le 25 décembre parce qu'il a la lumière. Hein? Donc si on regarde le calendrier, jusqu'au 25 décembre, les jours raccourcissent, les nuits sont plus longues, et à partir du 25 décembre, c'est le contraire. Les jours allongent de quelques minutes et les ténèbres régressent. Donc, Jésus est la lumière. Au verset 15, Jésus leur dit aux pharisiens, « Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. » Alors, le jugement, qu'est-ce que c'est le jugement? Vous savez que si vous avez fait quelque chose et que vous êtes condamné, le juge va vous juger et va vous donner son jugement qui sera autant de peine ou d'incarcération, ça dépend de ce que vous avez fait. Mais ce n'est pas ce jugement-là que Jésus voulait donner. C'était un genre de critique qu'on peut faire envers les gens. Il n'était jamais satisfait. Il n'était jamais satisfait de ce qui se faisait autour d'eux, parce que c'était eux qui étaient devenus les conseillers du grand prêtre à Jérusalem. Hein, quand il y avait le grand prêtre allait dans le Saint des Saints, eh bien, il avait tout ce que les pharisiens avaient pu donner comme indication, et ils allaient là répandre, hein, devant Dieu. De tous les griefs qu'il pouvait y avoir. Et le jugement, chose la plus dramatique qui peut arriver. Parce que dès que vous jugez quelqu'un, vous méprisez la personne. Et mépriser quelqu'un, c'est vraiment le rejeter, c'est ne plus avoir la possibilité d'avoir une communion avec la personne. Ah si, on peut s'asseoir à côté, hein. Mais le fait de juger, vous la considérez moins digne que vous. Et ça, c'est important de ne pas arriver à cela. C'est pour ça que Jésus, il dit qu'il faut avoir des entrailles de miséricorde. Il faut avoir des entrailles de miséricorde. Vous voyez la misère, tendez une corde vers la misère. Ça, c'est la miséricorde. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, oh, ne faites pas comme les pharisiens, parce que eux, directement, qu'ils faisaient quelque chose, ils faisaient sonner la trompette devant eux. Hein. Par exemple, quand ils devaient mettre à l'offrande devant le temple, hein, il y avait le tronc, eh bien, ils faisaient sonner la trompette ou le chauffard. Hein. Et alors, on mettait et on faisait bien tomber les pièces. Hein, il n'y avait pas des billets. Hein, parce que les billets, c'est une collecte silencieuse. Dès que le billet tombe dans le fond, il n'y a pas de bruit. Mais si vous mettez des pièces et que vous les faites tomber une par une, oh, on les compte. Hein. Et puis, dès qu'ils étaient au coin des rues, ils élevaient les mains. Hein. C'est peut-être une raison pour laquelle moi je ne lève pas les mains, parce que pas que ceux qui lèvent les mains sont hypocrites. Hein, c'est pas... Mais il y a une façon de lever les mains. Quand je suis seul, je peux faire ce que je veux. Je peux dire, Seigneur, écoute, je t'aime. Prends ma vie. Et c'est Dieu qui voit dans le secret. Il me voit. Hein. Il voit mon cœur. Il sait ce que je suis vraiment. Dieu juge le cœur. Et sa parole est comme une épée à deux tranchants qui va aller en profondeur. Et vous savez, si vous laissez l'épée de Dieu, la parole de Dieu, pénétrer dans votre cœur, vous allez être à nu. Vous allez être comme vous n'avez jamais été devant Dieu. Laissez-vous aller. Quand vous êtes seul, hein, c'est pour ça peut-être que Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et sois vrai avec ton Dieu. Sois réel. Sois celui que tu es vraiment, sans artifice, sans maquillage. Vous savez, au carnaval, les gens mettent des masques et le fait de porter un masque, on devient hypocrite. Hein, hypocritesse, c'est le porteur de masque. Les acteurs avaient un masque pour dire « je représente cette personne-là ». Mais devant Dieu, tous les masques tombent. Il n'y a plus aucun masque qui peut rester. Parce que devant Dieu, je suis tel que je suis. Au verset 20, Jésus dit encore des paroles et il enseigne dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit. Vous savez que Jésus, il était, une personnalité, hein, on l'appelait Rabbi. Donc c'était pas, un vulgaire menuisier ou charpentier. C'était quelqu'un qui avait des capacités. Parce que quand il était enfant, ben, il allait à l'école des rabbins, hein. Et il avait une connaissance. Il parlait l'araméen, mais il était aussi à l'aise avec l'hébreu. La preuve, c'est que quand il va dans les synagogues, eh bien, il est apte à ouvrir les livres de la loi, les livres de la Torah, et de pouvoir y lire en hébreu. Donc, il était érudit. Hein? Donc, il était vraiment un connaisseur. En plus d'être le connaisseur par excellence, puisque c'est lui qui avait insufflé les 10 paroles de liberté, donc les 10 commandements, à Moïse. C'est le même, hein, parce qu'il dit « Mon Père et moi, nous sommes un ». Donc il n'y a pas de diversité. On a parlé beaucoup de Trinité. C'est un mot qui n'existe pas dans la Bible, et je suis content qu'il n'existe pas, mais on le retrouve dedans. Hein. Donc le Père et moi, nous sommes un. Et Jésus dit, quand moi je m'en irai, je vous enverrai le Consolateur. Et alors le Consolateur, le Paraclète, hein, je ne fais pas étalage de mes connaissances, mais le Paraclète, c'est quelqu'un qui était dans l'armée romaine et l'armée grecque, c'était la personne, on va dire, le psychologue de service. Il avait sa tente au milieu du camp, Et les soldats qui venaient, par exemple, d'avoir été choqués par la bataille, devaient aller trouver le paraclet. Et à ce moment-là, ils devaient enlever leurs armes et leur armure. Ils devaient être simples, être très légers, être eux-mêmes. Et ils allaient trouver le paraclet qui remontait le moral. C'était celui qui relevait le moral des troupes. Et quand la personne, le soldat, sortait de la tente du paraclet, eh bien, il était regonflé et il pouvait repartir de nouveau au combat. Est-ce que le Saint-Esprit nous console à ce point que nous pouvons aller vers les autres et leur dire que Jésus est vraiment le Seigneur, qu'il est notre Sauveur, que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de sa grâce? Bien souvent, quand on est tout jeune chrétien, on a le feu aux trousses, hein, pour ne pas dire un autre mot, hein. Parce que nous voudrions que les gens connaissent qui est Jésus. Et puis, on regarde ceux qui sont plus anciens que nous, et on dit, ouais, mais écoute, celui-là, il fait ça comme ça, donc moi, je ne peux pas être supérieur à lui. Il faut que je vive un petit peu en dessous. Donc, et dessous, 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 pour finir, on s'écrase, et le feu qu'on avait, le feu du Saint-Esprit, je ne vais pas dire qu'il s'éteint, mais il est en veilleuse. Permettons au Seigneur de ranimer cette flamme. Hein. Il y avait un chant que j'aimais bien chanter avec les détenus à Lantin. C'était « Une flamme en moi réchauffe mon cœur hein. ». Et vous savez, ici, on est une vingtaine, comme Édouard a dit, je n'ai pas compté. Mais là, il y avait à peu près une soixantaine de détenus. Je ne savais pas pourquoi ils étaient là. Ça ne m'intéressait pas de savoir pourquoi ils étaient là. Mais de voir cette flamme qui était ranimée, donc leurs histoires qu'ils avaient entendues quand ils étaient enfants sur Jésus, pour certains, étaient ranimées. Et le temps d'un chant, eh bien, ça fait du bien. Combien de fois les surveillants me disaient, Monsieur l'aumônier, vous avez fait du bon travail aujourd'hui, hein? Moi, je disais, ben, j'ai rien fait. Hein, parce que le Seigneur agit, le Seigneur sait le vocabulaire qu'il doit utiliser avec les personnes. Au verset 23, Jésus dit encore, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et les pharisiens disent, mais qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Et alors au verset 27, ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus, tout au long de son voyage, pendant les 3 ans, 3 ans et demi qu'il a vécu sur terre, il n'a fait qu'une chose, c'est honorer le Père. Et dans le livre de Samuel, il est écrit, c'est Dieu qui dit ça, hein, à Samuel, il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Celui qui me respecte, celui qui me met à l'honneur, eh bien moi je le mets à l'honneur. Et l'apôtre Paul avait bien compris ça parce qu'il a dit que votre humilité vous fasse considérer l'autre comme étant au-dessus de vous-même. Ce serait bien, hein, si chacun de nous ici, ce matin, même qu'on n'est pas nombreux, ce serait bien de dire une bonne chose sur notre voisin pour l'élever au-dessus de nous. Eh bien, il y aurait un échange de gradation, hein. Si je dis du bien d'Édouard et que Édouard dit du bien de moi, j'espère que tu dis souvent du bien de moi, hein. Et c'est pour nous élever les uns les autres, pas à des grades, hein. Je suis le meilleur, tu es le meilleur, non. Parce que c'est en s'abaissant qu'on est élevé. Quelqu'un une fois m'a dit, mais votre religion, c'est un petit peu une religion de cartes. Je dis, pourquoi? Ben oui, vous parlez toujours d'humilité, d'humiliation, etc. Mais je dis, mais non. L'humilité, au contraire, c'est quelque chose qui nous permet d'être élevés, de nous élever par rapport à ce qui se passe sur la terre. Et plus on s'humilie, plus Dieu nous fait grandir. C'est paradoxal, hein? Donc, plus on s'humilie devant Dieu, et Dieu nous montre que nous sommes importants à ses yeux. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, on parle souvent de l'apôtre Paul, parce qu'il a découvert plein de choses. Et c'est sur le terrain qu'on peut s'apercevoir quand quelqu'un a vraiment découvert. Aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage, étant créés pour de bonnes œuvres que Dieu a créées, a mises devant nous, pour que nous les pratiquions. » Il ne va pas mettre des œuvres comme ça à quelqu'un qui est fainéant, hein? Quelqu'un qui ne fait rien, fainéant. Hein? Il ne va pas mettre quelqu'un, il va pas mettre un ouvrage à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire, qui reste assis. À un moment donné, il faut se lever, il faut avoir le courage de mettre les paroles du Seigneur en marche dans notre vie. Et Jésus, encore une fois, au verset 28, Jésus dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, ce que je ne fais et que je ne fais rien de moi-même, mais que je garde et que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et alors, chose étrange, au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Chose incroyable, hein? Plusieurs étaient en train de croire en Jésus, avec ce qu'il venait de parler du Père, hein? Et Jésus s'adresse à eux, à ceux qui avaient cru. Comment est-ce qu'on voit quand quelqu'un croit? C'est qu'il est presque bouche bée, hein? Il est en train de boire vos paroles. Je souhaite que vous ayez devant vous des personnes qui vous écoutent et qui boivent les paroles que vous êtes en train de dire. Pas des âneries, mais des choses de la parole de Dieu. Parce que la parole, elle se révèle parce qu'elle a été révélée par Jésus. Donc, si nous parlons de Jésus, eh bien, nous sommes toujours dans le vrai. Pas parler de Jésus avec nos propres paroles. Parler de Jésus avec sa parole, c'est différent. Hein? Donc là, on ne se trompe pas. Et Jésus s'adresse à ceux qui ont cru. Il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Si vous demeurez dans ma parole, vous savez, quand Jésus est venu, il faut essayer de mettre les choses en ordre dans notre place, dans notre tête. Jésus n'était pas le premier chrétien. Jésus était un juif qui lisait la Torah, hein, les livres sapientiaux, donc les psaumes, le livre de Job, les proverbes. Il lisait aussi les prophètes, hein, comme dans la synagogue de Nazareth. Donc, il n'y avait pas le Nouveau Testament, hein, quand Jésus était là. Hein. C'est venu 30, 40 ans après. Hein. Jésus était en train de dire, mais dans ma parole, je suis dans la parole. Et ceux qui sont venus avec moi en Israël, dans le désert, hein, à Timna, il y a une représentation du tabernacle, hein, qui a été ordonné par Dieu à Moïse. Et là, on voit que quand on entre, eh bien, il y a cinq colonnes. Dans la tente d'assignation, il y a cinq colonnes qui représentent les cinq livres de la loi, hein, donc qui sont Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Quand vous êtes à l'intérieur, vous avez une disposition des pièces, comme par exemple le chandelier, la table des propositions, l'autel des parfums, et devant le tabernacle, vous avez le bassin de purification avec l'autel où on sacrifiait les animaux. Et si vous faites l'alignement avec les quatre éléments, eh bien vous avez la croix. Donc la croix était déjà au temps de Moïse. Donc ce n'est pas une invention des Romains, ce n'est pas une invention du Nouveau Testament. La croix, et quand Jésus dit que la parole, les Écritures parlaient de lui, ben c'était normal. Alors je vous ai dit, quand on entre à l'entrée, il y a cinq colonnes qui représentent les cinq livres de la loi. Quand vous êtes à l'intérieur, après cette croix, vous n'avez plus que quatre colonnes qui représentent les quatre évangiles, avant d'entrer dans le Saint des Saints, là où Dieu avait à l'époque sa pièce où on venait l'adorer. C'est étrange, hein, quand on voit tout ça. Donc, si vous lisez dans le livre de l'Exode, même les autres livres, vous allez voir que toutes ces dispositions-là étaient importantes. Parce que Jésus était révélé dans les cinq livres de la loi. Et il y a quelqu'un qui a dit, je n'ai pas vérifié, mais en lisant toute la Bible, on peut le voir, c'est que les cinq livres de la loi sont répétés dans toute la Bible, même dans le Nouveau Testament. Vous avez la loi qui est donnée par Dieu, vous avez des prescriptions, vous avez des indications comment vivre, vous avez tout qui est répété, et Dieu, il se répète pour que nous ayons vraiment, que nous soyons imprégnés de sa parole. Alors, ce n'est pas pour rien que Jésus, au verset 43, dit, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne comprenez pas ma parole, hein? Puisque la parole, c'était les écrits qui parlaient de lui et ils n'avaient pas découvert qui était Jésus. Ah oui, c'est facile. Nous, on a facile, hein, parce que nous, c'était écrit. Donc, en lisant, on dit, ben oui, c'est normal. Ça, c'est clair comme de l'eau de source, hein, que Jésus est le Fils de Dieu. Hein. Mais à l'époque, il fallait qu'il le devine. Au verset 34, Jésus... Puisque les Pharisiens disent que, au verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham, écoutez l'énormité qu'ils disent, hein, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Mais on n'a jamais été esclaves de personne. En lisant l'Ancien Testament, vous voyez déjà dans Genèse qu'il y avait. Ils étaient esclaves à Gozen, hein, en Égypte. Ils ont été esclaves des Babyloniens, hein, des Perses. Donc, ils perdent de vue certaines choses parce que trop de connaissances détruit la connaissance. Parce que plus vous apprenez, si vous oubliez d'où vous venez, eh bien, vous perdez le sens et le fil de votre vie. Si maintenant vous oubliez comment vous étiez avant votre conversion, en disant « Le Seigneur, il a effacé mon passé. » Je vais dire mon œil, hein, parce que le passé, hein, il revient vite au galop. Hein. Chasser le naturel et il revient au galop. Si nous laissons nos idées un peu vagabonder, hein, vers le passé, mais on ne doit pas oublier d'où nous venons. Parce que si vous voulez expliquer à quelqu'un ce qu'est le salut, il faut que vous sachiez que comment vous étiez quand vous étiez pécheur. Dieu merci, moi, pour ma part, je me rappelle toujours comment j'étais. J'étais pas un bandit, Dieu merci. Hein, j'ai jamais fait de grand-chose. Même quelqu'un, une fois, m'a demandé, « Salvatore, tu ne veux pas me raconter un de tes péchés pour que je rigole un peu, hein? » Ah ben oui, hein, c'était une dame qui avait fait la prostitution, la drogue, cartomancienne, etc. Donc elle, elle savait d'où elle venait. Hein? Et Jésus leur dit, maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père, Abraham, et vous dites, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé. Alors, et là, il continue un petit peu, je ne vais pas m'étendre sur le fait qu'il dit que vous avez pour Dieu le diable. Vous imaginez, Jésus est en train de parler à des religieux, il leur dit, vous savez, pour père le diable. Parce que tout ce que vous entendez, vous le déformez, et il n'y en a qu'un qui est le menteur depuis le début, hein, c'est le diable. Il a susurré à l'oreille de Ève et d'Adam que la vérité, c'est autre chose que ce que la vérité a dit. Hein. Donc, il ne faut pas nous laisser berner par le diable. Alors, verset 48, je ne vais pas m'étendre, mais on lui dit, tu vois qu'on avait raison, hein, tu es un Samaritain. Et les Samaritains étaient détestés par les Juifs. En fait, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Ça ne se voit pas comme ça du premier au premier passage quand vous lisez. Mais vous voyez Jésus qui va de Galilée en Judée, de Judée en Galilée, en passant par la Samarie. Quand on ne voit pas la carte d'Israël, on ne sait pas, on ne voit pas bien ce que c'est. Mais quand on a vécu un petit peu, eh bien, on voit que le judaïsme de Jérusalem est différent du judaïsme de la Haute-Galilée. Vous allez dire, mais comment, c'était des Juifs quand même. Oui, et si vous regardez bien, quand Jésus est en Galilée, eh bien, il y a des envoyés, des pharisiens qu'on envoie là pour voir de quelle façon ils parlaient aux Galiléens. Donc, il y avait deux judaïsmes. Hein, un judaïsme actif à Jérusalem, où il y avait le temple, naturellement. Et de l'autre côté, des gens beaucoup plus paisibles. Des gens qui travaillaient, qui allaient à la synagogue, qui aimaient Dieu, mais d'une autre façon. Et c'est pour ça que Jésus est traité de Samaritain par les pharisiens. Et alors, au verset 49, il dit, « Moi, j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, au verset 50, il en est un qui dit qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alors, ils sont en train de décortiquer ce que Jésus a parlé. Hein. Il a parlé d'Abraham et du Père, tellement de choses. Et ils disent au verset 53, « Es-tu plus grand que notre Père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Jésus leur répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Et alors, au verset 56, il est en train, là, Jésus, de monter dans les tours. Hein. Il dit, Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Alors, les Juifs dirent, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est énorme. Hein? Jésus a été attaqué plusieurs fois parce qu'il a osé dire « Je suis ». Et en hébreu, maintenant, dans les conjugaisons, on dit « Ani hein ». « Ani », c'est « Je suis ». Mais on ne peut pas allonger trop de dire « Je suis ». Parce que les Hébreux, les Juifs, savent que quand on dit « Je suis », on se compare à Dieu. Puisque Yahweh a dit « Je suis celui qui suis ». Je suis l'Éternel qui demeure éternellement. Et le fait que Jésus dise « Je suis », eh bien, ça, c'était quelque chose d'impensable pour les Juifs de l'époque. Ils ne pouvaient pas admettre que quelqu'un prenne la place de Dieu. J'en ai déjà parlé, je pense. Quand Jésus est ressuscité, qu'il est allé en Galilée, et que sur le bord du lac, il est en train de préparer un barbecue, hein, il fait chauffer les charbons, et que les disciples reviennent avec la barque, et Jésus leur dit « Hé, les enfants, vous avez pris beaucoup de poissons ?» Et Pierre lui dit « Ben, on n'a rien pris, on a passé toute la nuit à rien prendre. » Et Jésus leur dit « Jetez votre filet à droite. » Et ils écoutent, hein, ils se disent « Autant faire ça. Hein. » Et ils jettent le filet à droite, et puis ils ne savent plus tirer le filet. Et alors, dans le filet, il y avait, si je vous pose la question, il y a beaucoup de personnes qui ne sauraient pas dire combien de poissons il y avait dedans, mais le chiffre qui est indiqué est un chiffre certain. Ils disent 153 gros poissons. Pourquoi pas 154 ou 150? On aurait pu dire il y a une centaine ou un peu plus ou quoi. Non, parce que en hébreu, les chiffres, les mots ont tous une signification numérique. Et par exemple, 153 correspond à « Je suis l'Éternel ». Ani Elohim. Et ils n'ont pas eu besoin de faire des calculs ou d'aller voir leur théorie. Hein. Ils ont compté 153 et Pierre dit « C'est le Seigneur ». Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Vous pouvez lire, hein. C'est écrit en long et en large. Hein. Donc, quand vous verrez le chiffre 153, sachez que l'Éternel était là. Jésus a dit « Je suis avec le Père est en moi et je suis comme le Père, on est un. Hein. » Et alors, vous savez ce que les pharisiens ont fait, hein, parce que c'était eux qui ont lancé l'intifada, hein. Oui. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, parce que son heure n'était pas encore arrivée. L'heure d'être livré n'était pas encore venue. Et Jésus est parti, il s'est frayé un chemin, et il est parti, et il s'est dérobé. Parce qu'à la fête, où Jésus était, il y avait tellement de monde que ce n'était pas difficile de se cacher. Mais sachons une chose, c'est qu'au verset 43, il est bien écrit « Vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Quand nous prions, laissons le Seigneur nous parler. Et si nous ne comprenons pas quelque chose, insistons et disons « Seigneur, aide-moi à découvrir ce que tu me dis vraiment. » Parce que le Seigneur, il a une parole pour chacun. C'est rien de chanter comme on a chanté ce matin, c'est tous des beaux chants. Hein. Mais c'est tous des chants qui disaient, « Seigneur, écoute-moi, je suis là, j'ai besoin de toi. Hein. » Mais le Seigneur, vous croyez qu'il n'a pas besoin de vous? Le Seigneur a besoin de vous, de chacun de nous, à notre niveau, que nous soyons intelligent, que nous soyons faibles en esprit, que nous soyons n'importe comment, que nous soyons âgés, jeunes ou quoi, Dieu a besoin de nous. Et il ne veut utiliser que ceux qui se mettent à son service. Que nous soyons en Belgique, en Israël, vous savez qu'il y a le tour d'Italie, hein, et Israël est au premier plan pour le moment. Hein. La prochaine étape, nous l'avons faite, hein, Edouard. Hein. Et Michel, on a fait Beersheba, Tel Aviv. Hein. Et là, l'étape, c'est ça. Donc, le désert du Negev. C'est une... Enfin, moi, quand j'ai vu sur la carte, ça m'a fait quelque chose. Hein. Hein, il y a eu le tour de Jérusalem, le tour de Tel Aviv, et maintenant, Beersheba, Tel Aviv. Israël est à la pointe de l'actualité. Et tant que nous en avons la possibilité, prions pour Israël. Prions pour toutes ces personnes qui en veulent à Israël. Il y a des choses incompréhensibles. Si vous, dans votre jardin, vous mettez trois pneus pour les brûler, vous allez avoir les pompiers, vous allez avoir écolos, vous allez avoir plein de personnes qui vont commencer à vous dire « Vous êtes des pollueurs !» Et les gens de la bande de Gaza, ils prennent des centaines et des milliers de pneus qu'ils brûlent. Et on ne leur dit rien. On trouve que c'est normal qu'ils soient aigris. Ils mettent les enfants et les femmes avant, hein, pour que quand il y a des tirs, que ce soit eux qui partent les premiers. Et après, on anime l'opinion publique en disant « Voyez ce qu'ils sont en train de faire hein. !» Mais sachez une chose, et je l'avais dit au G30, je le dis parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Essayez de toucher la prunelle de votre œil. Vous allez voir comme ça fait mal. Hein. Et quand on touche Israël, eh bien, on fait très mal à Dieu. Parce que c'est le peuple élu. Jamais, dans la parole de Dieu, il est écrit que Israël a été abandonné par Dieu. Mais au contraire, Dieu se sert d'Israël pour que l'humanité puisse avoir envie de servir Dieu. Alors, je vais terminer juste par une chose. Tous les Israéliens, je vais dire tous les Juifs, hein, parce que il y en a qui sont Israéliens, mais qui ne veulent pas être Juifs, il y en a qui sont Juifs, qui ne veulent pas être Israéliens. Ça, c'est leur business, hein, c'est leur affaire à eux. Mais j'ai un ami qui, lui, s'occupe des logements en Israël, et il m'a toujours dit, moi, je ne suis pas religieux, mais je suis juif. Alors, je lui ai dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Être juif, c'est être dans le plan de Dieu. Et tu dis que tu es juif, mais que tu ne veux pas... je lui ai dit, mais tu sais que intérieurement, je sais que tu crois que Dieu existe. Parce que tu ne peux pas avoir vécu tous les miracles qui ont été faits autour d'Israël pour que ce soit quelque chose de banal. Hein? Si vous avez vu les émissions qui ont été faites sur Israël... avec Ben Gurion, avec la naissance de l'État d'Israël, eh bien, c'est toute une série de choses qui ont fait que Dieu a été à l'œuvre pour chaque chose. Et 70 ans après, Israël est encore plus fort qu'avant. Et on ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu cette révolte, cette force avant. Peut-être qu'en étant les témoins de Dieu à travers le monde, ils ont été un peu trop passifs. Mais quand ils ont commencé à créer la Haganah, hein, donc la première armée Tzahal en Israël, eh bien, ils sont devenus l'armée la plus forte du monde. Un petit pays avec une force énorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment l'histoire. En quelques jours, ils ont pris le Sinaï, ils ont pris la Syrie, ils ont pris le Liban, ils ont pris tout plein de pays. Et ils ont montré leur supériorité. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas qu'un pays soit supérieur à l'autre. Il veut que les pays vivent en paix. Est-ce que nous prions pour la paix de la Belgique? Est-ce que nous prions pour la paix du Canada? Est-ce que nous prions pour la paix où que nous soyons, dans nos familles, avec nos enfants? Ouf, combien de tourments les enfants peuvent donner, hein? Mais Dieu voit notre cœur, il voit notre situation familiale, et il voit chaque chose. Osons dire, Seigneur, non pas moi, mais toi, Seigneur. Toi devant, toi avant. Et Jeanne d'Arc avait dit une chose, Maître Dieu, premier servi. Maître Dieu, premier servi. Quand vous faites quelque chose, regardez si Dieu est d'abord servi, et puis après, il y a vous. Mais devant nous, parce que si nous marchons devant Dieu, qui est-ce qui nous guide? Nous n'avons personne pour nous guider. Mais si nous mettons Dieu devant, nous pouvons avoir un guide qui nous guide et qui nous porte. Hein? Rappelez-vous les pas dans le sable. Hein? Dieu nous porte alors que nous sommes dans le besoin. Voilà, c'est ce que j'avais sur le cœur. J'ai pas grand-chose d'écrit, mais c'est le plan. Hein? Et les gens n'auront qu'à écouter. Hein? Et les paroles sont moins importantes, mais elles sont une valeur que nous pouvons mettre dans le cœur. Prions. Seigneur, merci de ce que, quand tu étais sur la terre, tu as dit toi-même que tes paroles étaient la vérité, que tu étais le chemin, la vérité et la vie, que nul n'allait au Père que par toi. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions constamment te mettre devant nous et que nous puissions suivre tes traces pas à pas. Ne pas nous précipiter, mais en sachant que toi, tu connais la vitesse de croisière de notre vie. Seigneur, permets que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, puisse être fait avec toi. Merci parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Et tu nous rappelles que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Sois loué, sois béni. Réconforte-nous. Et donne-nous ta joie, ta paix, le bonheur de te suivre et d'être ton enfant. Amen.